France Culture.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le mouvement Bloquons tout a mis la France sous tension aujourd'hui avec de multiples blocages ou tentatives de blocage. À Paris, il y a eu des incidents entre Châtelet et Léal. Plusieurs milliers de personnes sont actuellement rassemblées dans le calme sur la place de la République. Page spéciale dans ce journal avec Boris Loumagne, Marc Bertrand et Anne Fauquemberg. Un nouveau Premier ministre laconique pour la passation de pouvoir avec François Bayrou. Sébastien Lecornu s'est exprimé pendant 2 minutes 30, le temps pour lui de promettre des ruptures. Des ruptures, c'est aussi ce qu'attend le Rassemblement national. Jordan Bardella refuse de censurer a priori le nouveau gouvernement, mais le président du RN continue à réclamer de nouvelles élections législatives. La Russie envoie une vingtaine de drones en Pologne. Le gouvernement polonais dénonce une provocation à grande échelle. Le Kremlin rejette toute responsabilité sans pour autant contester l'origine russe de ces drones. Bloquons tout, ce mouvement sans leader né sur les réseaux sociaux a réussi à mettre dans la rue des dizaines de milliers de personnes. La France n'est pas à l'arrêt aujourd'hui, on va y revenir dans un instant, mais les manifestations organisées dans tout le pays ont attiré des foules significatives. Des cortèges sous tension, comme à Paris, où la façade d'un immeuble était en feu tout à l'heure près de la place du Châtelet. Un peu plus loin, les autorités ont dû fermer le Forum des Halles et la station Châtelet-Léal. On retrouve dans le cortège parisien Boris Loumagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Boris, les manifestants qui répondaient à l'appel de plusieurs syndicats ont rejoint la place de la République où la situation est beaucoup plus apaisée ce soir.
Oui, ambiance plutôt bon enfant ici sur la place de la République avec quelques milliers de manifestants qui sont rassemblés paisiblement, calmement, et l'ambiance tranche avec ce qu'on a pu voir notamment en début d'après-midi devant la gare du Nord avec des affrontements entre manifestants et policiers. Ce soir, c'est donc beaucoup plus calme, beaucoup de jeunes devant moi parmi ces manifestants, des lycéens, des étudiants et des jeunes actifs également, comme Julie qui a 29 ans que je viens de rencontrer, qui travaille dans le cinéma. Elle nous explique pourquoi elle est là aujourd'hui.
Un ras-le-bol général de à la fois politique, économique, les enjeux climatiques. Je pense qu'on se sent tous concernés à des niveaux différents. Nous, on est dans des métiers de la culture, en plus on est hyper précaires et on a l'impression qu'on n'a pas moyen de s'en sortir. Donc je pense que ça touche pas mal de personnes dans notre génération. Les enjeux écologiques qui nous préoccupent. Je pense que tout le monde a ses préoccupations propres, mais qui se rejoignent, c'est le point de convergence, quoi.
Alors, un ras-le-bol général, nous disait cette manifestante, même s'il y a un point précis qui cristallise la colère aujourd'hui, et c'est la nomination du nouveau Premier ministre. Et d'ailleurs, on peut le voir en face de nous sur cette place de la République, avec un tag sur la colonne de la place où il y a écrit « Lecornu, tuez le prochain ». Frédéric est directrice d'école. Elle est très remontée contre cette nomination.
C'est-à-dire qu'on attend du changement, et le changement, il vient pas quand on nomme Monsieur Lecornu Premier ministre, après que M. Bayrou ait décidé de quitter le poste, c'est que notre président ne veut pas entendre ce besoin de changement et d'une autre politique.
Et pour que ça change, les manifestants nous disent qu'il faut continuer à se mobiliser. Alors, quelle forme cela prendra dans les prochains jours? Peut-être une forme plus structurée, nous disent les manifestants, comme cette manifestation du 18 septembre pour la journée de mobilisation nationale.
Boris Loumagne en direct de la place de la République à Paris avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Des tensions, il y en a eu aussi à Rennes où un autobus a même été incendié sur la rocade de la ville. Un axe routier stratégique bloqué pendant près de 3 heures ce matin par plusieurs centaines de manifestants. Le reportage sur place de Marc Bertrand.
Devant la carcasse du bus complètement brûlé, noyé dans la mousse blanche des pompiers, Victor a les bras ballants. Cet électricien de 30 ans est coincé avec sa voiture. Il regarde les blindés de la gendarmerie qui dégagent la barricade.
Ce que je veux que je vous dise, à partir du moment où tu payes des impôts et en même temps tu casses, que ce soit là des bus, que ce soit... C'est nos impôts qui payent au final.
Plus loin, sur un barrage filtrant, les camions klaxonnent pour remercier les bloqueurs de les laisser passer. Fabien baisse sa vitre pour échanger avec une jeune femme en noir.
Je fais une navette entre le Finistère, l'Orient et Sablé-sur-Sarthe, donc je suis déjà juste en...
en temps de conduite. Donc c'est vrai qu'on subit, quoi.
Moi, j'ai participé aux manifestations contre la réforme des retraites. Ça n'a pas du tout été entendu. Donc moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis sur le blocage.
En centre-ville, le cortège des syndicats fait le plein. Plus de 10 000 personnes, des retraités, des commerçants, des étudiants qui se félicitent du blocage. Comme Yves, 54 ans, agent à l'hôpital.
Il y a un bus brûlé, c'est vrai. Après, il y a une société qui brûle aussi. Et ça, c'est aussi ça, un autre fait.
Pour bloquer l'avocat de l'avocat toute la région, de la région.
Amandine, une musicienne, le pantalon encore trempé d'avoir fui les gendarmes, n'a qu'une envie, rebloquer demain.
Bah là, il faut faire plus que des manifs. Là, il faut bloquer plus. Là, après, on n'a plus le choix. Macron, il nous écoute pas, quoi. Il a mis le corps nu en premier ministre. Il écoute rien, quoi. Il met quelqu'un qui est un ex-filloniste. Non, mais de toute façon, on n'a plus rien à attendre de Macron. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. On n'a plus le choix. On va tout bloquer. C'est fini.
Bloquer quoi? On n'en sait rien, répond la jeune femme. Elle attend que des appels soient lancés sur les boucles de messagerie du mouvement.
Voilà pour ce reportage à Rennes de Marc Bertrand. Alors, quel premier bilan peut-on faire de cette opération Bloquons tout? À la mi-journée, les autorités ont compté 29 000 participants dans toute la France. L'estimation ce soir sera certainement beaucoup plus importante. Quant au blocage, le but principal de cette journée, ils ont été nombreux, mais beaucoup ont échoué. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait mobilisé 80 000 policiers et gendarmes aujourd'hui pour empêcher ces blocages. Une mobilisation qui a en partie porté ses fruits.
Oui, car les nombreuses tentatives de blocage se sont souvent heurtées à l'action préventive des forces de l'ordre mobilisées donc en nombre. C'était le cas à Marseille ce matin où, prépositionnés à l'avance, les policiers ont empêché 200 personnes d'accéder à l'autoroute venant de Toulon à Paris. Une tentative d'intrusion dans la gare du Nord a elle aussi été empêchée, mais la SNCF a tout de même dû interrompre brièvement des circulations de trains à cause des occupations de voies à Cherbourg ou encore à Valence. L'entreprise dénonce également des actes de malveillance comme des dégradations de câbles entre Marmande et Agen dans le Lot-et-Garonne. Sur la route, des opérations escargots et des barrages ont aussi perturbé la circulation sur l'A10 au niveau de Poitiers Sud et sur l'A9 à Aix-en-Provence ainsi que sur la rocade de Toulouse. 30 musées, monuments et services publics ont aussi été fermés pour cause de mobilisation des personnels, le musée du Louvre ou encore les archives nationales de Paris et Aix-en-Provence. Enfin, une centaine de lycées ont été perturbés et 27 bloqués partout en France avec également des actions étudiantes dans plusieurs villes. Ce soir, la gare de Châtelet-Léal et le Forum des Halles à Paris sont aussi toujours fermés pour raisons de sécurité.
Anne, il y a eu aussi des dizaines d'interpellations aujourd'hui.
Au niveau national, le ministère de l'Intérieur a annoncé près de 300 interpellations à la mi-journée. La majorité d'entre elles ont eu lieu en région parisienne et les derniers chiffres du parquet de Paris ce soir font état de 199 interpellations, dont 99 gardes à vue. Le parquet qui précise que ces gardes à vue sont prises au motif de l'infraction soupçonnée de participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et pour entrave à la circulation routière. Ce chiffre des gardes à vue risque encore de monter car toutes les interpellations n'ont pas encore pu être traitées judiciairement.
Anne Fauquemberg, merci. Et c'est donc au beau milieu de ce mouvement social à l'avenir incertain qu'a eu lieu à la mi-journée la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, nommé hier soir par Emmanuel Macron à la veille donc de cette opération Bloquons tout. Le nouveau Premier ministre a promis des ruptures proches du président venu de la droite LR. Sébastien Lecornu a fait court et direct tout à l'heure à Matignon. Le récit de Rosalie Lafarge.
Les grands discours, ce n'est pas sa marque de fabrique. Sébastien Lecornu ne s'éternise pas, surtout dit-il que le moment l'impose.
Cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commande à l'humilité et à la sobriété.
Il se contentera de 2 minutes 30 avec quelques messages. Le premier à destination des Français.
Il n'y a pas de chemin impossible. On va y arriver.
Le Premier ministre pointe le décalage qu'il juge préoccupant entre la vie politique du pays et la vie réelle, mais aussi entre la vie politique et la géopolitique. Il faut réussir, poursuit Sébastien Lecornu, à y mettre fin, mais il se veut confiant, convaincu, en apparence au moins, qu'un compromis, un accord, une entente peut être trouvé, à une condition quand même.
Alors pour cela, il va falloir aussi changer.
Changer sur la forme, précise-t-il d'abord sous le regard attentif de son prédécesseur François Bayrou, tout juste renversé.
Être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond.
Lesquelles ? Sébastien Lecornu n'entre pas encore dans le détail. Il réserve ses ouvertures aux forces politiques et syndicales qu'il va recevoir les unes après les autres. Renaissance, LR et Horizon ont ouvert le bal cet après-midi. Négociations et tractations ne font que commencer.
Rosalie Lafarge, merci. Et de fait, ces consultations politiques marquent un changement de méthode pour sortir de la crise. Ce n'est qu'après avoir reçu les chefs de parti que Sébastien Lecornu formera son gouvernement, avec évidemment le risque de connaître le même sort que ses prédécesseurs Michel Barnier et François Bayrou, être renversé par l'Assemblée. À gauche, le Parti Socialiste n'en est pas là. Il attend du nouveau gouvernement qu'il fasse des concessions en matière de justice sociale, alors que la France Insoumise compte déposer une motion de censure spontanée dès la reprise de la session parlementaire début octobre. Du côté du Rassemblement National, on veut bien laisser sa chance au produit Lecornu, mais on a des exigences. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis le Parlement européen à Strasbourg, le président du RN, Jordan Bardella, a rappelé la priorité de son parti, la dissolution de l'Assemblée.
Oui, en deux temps, c'est-à-dire que Jordan Bardella a d'abord résumé en deux mots le choix qui se présente à Sébastien Lecornu, vu du RN.
Soit il y a rupture, soit il y aura censure.
Voilà, une menace et une forme de réponse à la promesse de Sébastien Lecornu, mais pas de censure a priori. Et si le Rassemblement National reçoit une invitation à se rendre à Matignon, Jordan Bardella se dit prêt à présenter la position du RN sur le budget. Il cite de nouveau la non-augmentation de la fiscalité, la chasse aux mauvaises dépenses publiques ou encore la remise en cause de la politique d'immigration. Pourtant, Jordan Bardella se dit sans illusion sur le bail précaire de Sébastien Lecornu, comme si les dés étaient en réalité déjà jetés.
Notre ambition, c'est de retourner aux urnes. Et je pense qu'il n'y aura aucune autre possibilité dans les prochaines semaines, je dis même plus dans les prochains mois, mais je dis dans les prochaines semaines, parce qu'encore une fois, j'ai peu d'espoir sur le fait qu'un macroniste s'oppose à la politique d'Emmanuel Macron, qu'il a soutenue depuis 8 ans, les mêmes politiques, les mêmes causes, entraîneront les mêmes conséquences, en tout cas de notre part.
Oui, le RN connaît bien Sébastien Lecornu, celui qui était ministre des Armées, passe pour un politique habile et négociateur, qui n'a jamais marginalisé le RN. Les deux principaux dirigeants du Rassemblement National l'ont d'ailleurs rencontré lors de déjeuners discrets, mais aujourd'hui, il représente l'entêtement macroniste à leurs yeux, qui de plus consulte prioritairement sur sa gauche, enlevant pour le moment une part d'influence au RN à l'Assemblée.
Explication signée Nicolas Ballu. La Cour de cassation a rendu aujourd'hui un arrêt important en matière de droit du travail. Un salarié qui tombe malade pendant ses vacances a le droit de voir son congé payé reporté. Voilà ce que dit la plus haute juridiction française. Cet arrêt de la Cour de cassation était attendu pour mettre le droit français en conformité avec le droit européen qui prévaudra désormais, pourvu que l'arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur, précise la Cour de cassation. Deux blessés dans une attaque au couteau aujourd'hui dans un lycée d'Antibes. Un homme a agressé une enseignante et un élève de cet établissement horticole. L'enseignante, âgée de 52 ans, a été gravement touchée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'assaillant a été interpellé, on ne connaît pas ses motivations. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doit se rendre sur place à Antibes en début de soirée. Les Occidentaux en sont convaincus. La Russie a voulu tester l'OTAN en envoyant des drones en Pologne la nuit dernière. Une vingtaine d'engins au total, dont certains ont provoqué des dégâts matériels dans un village près de la frontière ukrainienne. Les avions de l'OTAN sont entrés en action toute la nuit pour écarter le danger. 3 drones ont été abattus. Selon le quartier général de l'Alliance Atlantique, c'est la première fois que son aviation a dû affronter une menace potentielle dans l'espace aérien allié. Pour la Pologne, aucun doute, il s'agit d'une provocation à grande échelle du Kremlin. Faux, répond la Russie, qui conteste toute responsabilité, sans pour autant nier formellement qu'il s'agisse de drones russes. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
Dans un premier temps, le Kremlin, dans la grande tradition du pouvoir russe, a commencé par affirmer qu'il n'était au courant de rien, que les Occidentaux avaient l'habitude d'accuser la Russie sans preuve et qu'il fallait voir avec le ministère de la Défense. L'armée russe, donc, qui a mis plus de temps que d'habitude à publier son communiqué quotidien aujourd'hui et qui affirme qu'aucun objectif sur le territoire polonais n'était visé, ce qui ne veut pas tout à fait dire qu'aucun drone russe n'a pu le toucher. Difficile d'y voir clair donc, mais l'explication est peut-être venue de Biélorussie, à Minsk, où le chef d'état-major a affirmé qu'il avait prévenu la Pologne la nuit dernière que des drones approchaient de ses frontières. D'après cet allié de la Russie, ils auraient été déviés de leur trajectoire par des mesures de guerre électronique. Voilà donc peut-être une version crédible, mais la diplomatie russe a depuis pris le relais, accusant la Pologne de propager des mythes et de chercher à aggraver la guerre. Les photos publiées par la Pologne montrent bien néanmoins des drones de fabrication russe.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en Russie. Les États-Unis se tiennent aux côtés de leurs alliés, affirme ce soir l'ambassadeur américain à l'OTAN, Matthew Whitaker. Donald Trump va s'entretenir ce soir avec son homologue polonais, le nationaliste Karol Nawrocki. La nouvelle flottille pour Gaza, appelée Global Sumud Flotilla, a-t-elle été visée par plusieurs attaques de drones? Une chose est sûre, deux de ces navires ont pris feu cette semaine au large de Tunis. Lors d'une escale, des incendies causés par un mégot de cigarette, selon les autorités tunisiennes. Mais les membres de cette flottille pour Gaza affirment, eux, que le feu est parti d'un engin largué par un drone. L'équipage est sain et sauf, mais il s'interroge, car ces événements surviennent au moment où les navires doivent repartir en direction de Gaza pour apporter de l'aide humanitaire et, je cite, « briser le blocus israélien ». Prune Missoff est l'une des passagères françaises de cette flottille.
On est beaucoup dans les hypothèses parce que il y a des enquêtes qui sont en cours et qu'on n'a pas d'éléments concrets sur d'où ces drones viennent. Après, le contexte international, il y a des éléments qui nous permettent de penser que ça vient effectivement essayer de nous dissuader de poursuivre la traversée jusqu'à Gaza. Ça ne dissuade personne et qu'au contraire, ça ne fait que renforcer notre souhait d'aller ouvrir ce corridor humanitaire. On a bien conscience que ces drones, c'est un aperçu extrêmement faible de ce que vivent les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza depuis des mois, voire des années. On se sent vraiment déterminé. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le succès de cette mission, il n'est pas uniquement dans le fait d'arriver jusque Gaza, même si évidemment c'est notre ligne de mire, c'est aussi de soulever, de visibiliser le soutien au peuple palestinien. Et je crois que ça, c'est extrêmement important pour savoir qu'on ne renie pas notre humanité qui devrait être au cœur aujourd'hui de nos discours et de nos actes.
Des propos recueillis par Jeanne Serrin. Les navires de cette flottille, qui regroupe des délégations de 45 pays, ont prévu d'arriver à Gaza à la mi-septembre, après deux autres tentatives bloquées par l'armée israélienne en juin et juillet. Israël qui continue à frapper ses ennemis hors de ses frontières. Après le Qatar hier, le Yémen aujourd'hui, des bombardements contre les forces houthis. En l'occurrence, un bâtiment abritant les services de communication de ce mouvement rebelle pro-iranien. Il y a des morts et des blessés selon les houthis. Hier, Israël avait frappé une réunion de dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar, a priori les négociateurs de la milice islamiste. Le bilan reste incertain ce soir, mais cette opération a été condamnée dans le monde entier. Même Donald Trump a exprimé son mécontentement. C'est un changement majeur que pointe l'UNICEF dans son dernier rapport sur la nutrition dans le monde. Pour la première fois depuis la création de l'Agence onusienne pour l'enfance en 1946, l'obésité s'impose comme la forme dominante de malnutrition devant l'insuffisance pondérale, autrement dit la maigreur extrême. Le rapport s'appuie sur les données issues de 190 pays. Les explications de Tara Schlegel.
L'horreur de la sous-nutrition frappait au début du siècle 13% des enfants, 9,2% aujourd'hui. À l'inverse, l'obésité ne cesse en ce moment d'augmenter. 3% l'an 2000, mais 9,4% de jeunes obèses en 2025. Les courbes sont en train de se croiser. Or, qui dit obésité dit danger. Ces chiffres concernent les 15-19 ans. Un petit obèse a plus de risques de développer du diabète, d'être malade du cœur, d'avoir aussi, dit le rapport, une santé mentale plus fragile, en raison donc du surpoids. Parmi les constats importants, l'épidémie frappe toute la planète, mais ce sont les pays pauvres et à revenus intermédiaires qui voient leurs enfants grossir le plus vite. Chez eux, la prévalence du surpoids a été multipliée par 2 en 25 ans, dans les pays riches par 1,2 seulement. À mesure que ces États se développent, ils abandonnent leur régime traditionnel et la malbouffe s'installe. Les enfants des familles aisées sont alors plus touchés par le surpoids. À l'inverse, dans les pays riches, la mauvaise alimentation est un marqueur de pauvreté, écrit l'UNICEF. Une enquête en Argentine, Chili, Brésil, Mexique a montré que là-bas, les commerces exposent les sucreries plus volontiers dans les quartiers défavorisés qu'ailleurs. L'UNICEF accuse donc l'industrie des boissons et aliments ultra transformés, parle de marketing agressif, d'influence disproportionnée sur les gouvernements. Elle appelle à ériger des normes vertueuses pour enfin protéger les enfants.
Tara Schlegel, spécialiste des questions de santé à la rédaction de France Culture. Un mot du temps, demain, le ciel restera nuageux sur les trois quarts du pays avec des averses de la Bretagne aux Flandres. En revanche, le pourtour méditerranéen bénéficiera d'un soleil généreux. Demain matin, il fera entre 11 et 19 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 18 et 29 degrés. 18h20 sur France Culture, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Jean-Guy Lamège.